Je passe la parole à Esteban Bourg pour continuer de réfléchir à ce mot de création, non pas cette fois en le faisant travailler avec l'imitation, mais plutôt en posant la question de la singularité de ce mot de création qui est somme toute relativement récent s'agissant de l'histoire de l'art au fond, parce que je vous ai beaucoup entendu, mais on y reviendra, parler à partir du 18e, oui, parce qu'avant, effectivement, je pense qu'on ne serait pas forcément permis de parler de création, c'était réservé à d'autres domaines.
Bonjour, merci pour cette présentation, merci aux organisateurs pour m'avoir invité. Alors j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit mon voisin sur ce rapport dialectique entre imitation et création, et j'aurais envie de faire une sorte de commentaire général. Je n'ai pas été là tout le temps, malheureusement, depuis la conférence d'Edgar Morin, mais quand même ce que j'ai entendu me fait penser qu'on est spontanément plus enclin ici à mettre en cause l'idée d'une création ex nihilo, à relativiser, à dialectiser justement en cherchant dans le concept de création une limite qui serait donnée par ce qui n'est pas elle. Et du coup, par esprit de contradiction, j'aurais envie de sortir du chapeau une sorte de plaidoyer pour la création ex nihilo. Mais malheureusement, c'est trop tard parce que j'ai déjà écrit mon texte et parce que bon, je pense que c'est pour une bonne raison que l'on a ce réflexe un peu critique par rapport à une certaine mythologie de la création. Donc je vais un peu m'inscrire dans ce sillage-là et je vais vous faire une lecture. Donc j'y vais. Création découverte, c'est mon titre avec un point d'interrogation. Être un artiste et être un créateur restent dans notre culture des quasi-synonymes du moment qu'aucun autre milieu professionnel ne semble pouvoir incarner seul le prototype. Il y a certes des domaines qui, comme la mode et la publicité, font également du concept de création un mot-clé de leur identité sociale et professionnelle, mais ils sont soumis aux reproches récurrents de défendre une idée dévoyée de la création, car compromise avec le marché et avec l'intérêt, au sens kantien du contraire du désintérêt qui serait propre à l'expérience esthétique. Cependant, l'usage courant fait également de la créativité une dimension importante d'activités très différentes, qu'il s'agisse de leadership politique, de management, de sciences, de gastronomie, de pédagogie, voire de vie sociale ou même de vie privée. Cela rend difficile toute discussion synthétique sur la création dans le monde aujourd'hui, au-delà de la dissémination de ce que Luc Boltinski et Laurent Thévenot ont appelé la critique artiste, qui en rappelle la pertinence diffuse. La création, on l'a rappelé, est un concept qui dérive de la théologie, moyennant un transfert de sacralité qui remonte à la Renaissance et qui, en musique, s'est accentué à partir du romantisme. Cette origine et cette tradition justifient quelques précautions, car la figure de l'artiste démiurge mène à un culte des grands hommes qui tend à occulter ou à déformer la dynamique sociale de la production artistique fondée sur de multiples formes de collaboration et d'interaction, sur de multiples logiques d'appropriation et de réélaboration. Le mot de création peut rendre plus difficile la description de ce que font effectivement les artistes, des modifications qu'ils introduisent dans le monde, dans notre monde commun. Ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner la notion de création pour parler de musique, par exemple. En revanche, on peut faire de cette méfiance elle-même l'objet d'une enquête historique. Par exemple, en 1908, Waldemar Konrad, un disciple de Husserl, compare les œuvres musicales à des objets idéaux, une catégorie qui illustre typiquement les objets géométriques, disons un triangle. Konrad tâchait de résoudre l'énigme ontologique que pose le fait qu'une œuvre musicale classique ne saurait être réduite à aucune de ses interprétations sonores, pas plus qu'à la partition ou à ses enregistrements, ni aux représentations mentales du compositeur, ni à celles de l'auditeur. Il en concluait que la production d'œuvres d'art ne relève pas d'une activité de création, car par définition, les objets idéaux ne sauraient être créés. Ce à quoi Roman Ingarden, autre disciple de Husserl, va répondre que le fait que les œuvres musicales commencent à exister à un moment et dans un lieu précis interdit de les ranger parmi les objets idéaux. Sa solution à lui consistait à y voir des objets purement intentionnels, d'après son vocabulaire, c'est-à-dire des objets tels qu'ils apparaissent à une conscience qui les vise en absence de tout corrélat réel, proche en cela des entités décrites dans les fictions littéraires. Ce débat entre phénoménologues va être en quelque sorte rejoué des décennies plus tard, apparemment sans qu'ils le sachent, par des philosophes analytiques, dans le cadre d'une discussion sur l'ontologie de l'œuvre musicale, qui s'identifie aussi à l'œuvre classique occidentale, c'est-à-dire à une musique écrite sous forme de partition. Qu'est-ce qu'une œuvre musicale, se demande-t-il, du moment que ce n'est pas ce que l'on perçoit avec les oreilles ? Dans « Langage de l'art », Nelson Goodman explique qu'une œuvre musicale est la classe de concordance de ses exécutions, définie par une relation d'isomorphisme avec la partition conçue comme système notationnel. Par rapport à cette classe ou ce type, les exécutions sonores ne sont jamais que des occurrences, des tokens. Peter Keevy va tirer toutes les conséquences de l'approche consistant à voir dans les œuvres des objets éternels qui, par définition, ne sauraient être amenés à l'existence. En anglais, « brought into being », une expression qui pourrait être la définition même de la création. Du platonisme musical de Keevy découle l'affirmation que les œuvres ne sont pas créées, mais découvertes. L'idée, déjà avancée par Walter Stoff, est qu'une œuvre musicale n'est autre chose qu'une structure sonore, un « pattern of sounds », que le compositeur isole et désigne au sein des innombrables combinaisons permises par la grammaire du style qu'il pratique. Ces structures ne sont pas des sons, mais bien des rapports entre des sons. C'est pourquoi leur existence est indépendante de toute réalisation et de toute perception. En cela, elles sont proches des propositions logiques ou mathématiques qui valent en dehors de toute temporalité, que quelqu'un soit là ou pas pour le constater ou pour en faire la démonstration, à l'image des idées de Platon qui existent de toute éternité dans le royaume des idées, indépendamment de leur corrélat psychique dans l'esprit de Platon ou de quelqu'un d'autre. Tout comme Pythagore a découvert et non pas créé son fameux théorème, en tant que type, l'art de la fugue a toujours été là. Il suffisait d'y penser, ce que personne ne semble avoir fait avant un certain Johann Sebastian Bach. Cette affirmation n'est pas contredite par l'idée courante que Keevy ne conteste pas, qui veut que seul Bach était subjectivement capable d'écrire les œuvres de Bach. Pour lui, l'idée d'expression n'est nullement incompatible avec celle de découverte, pas plus qu'avec celle d'invention. C'est ce que confirme à sa manière la notion courante de génie qui s'applique aussi bien aux découvertes d'Einstein et aux inventions d'Edison qu'aux créations de Picasso. Cette idée a été critiquée par Gerald Levinson dans un article de 1980 où il souligne l'importance que revêtent pour la notion d'identité d'une œuvre musicale classique ses moyens instrumentaux. La sonate Hammerklavier de Beethoven, dit-il, n'est elle-même que jouée au piano et pas au synthétiseur, par exemple. Il ajoute à cela une objection logique. Si Richard Strauss avait composé « Pierrot lunaire » en 1897, c'est-à-dire 15 ans avant la création de l'œuvre du même titre écrite par Arnold Schoenberg, cette œuvre-là aurait été encore plus bizarre, angoissante ou déviante pour le public que ne l'a été celle de Schoenberg. Ce qui revient à dire qu'elle aurait eu des propriétés esthétiques différentes, partant qu'elle aurait été une œuvre différente. De tout cela, Levinson dérive une définition de l'œuvre musicale qui en fait un objet historiquement situé, ce qu'il appelle une structure indiquée. Or, l'objection principale de Levinson à l'idée que les œuvres musicales sont de pures structures sonores n'est autre que le fait qu'elle rend absurde l'idée que le compositeur est un créateur. Et pourquoi faudrait-il rester fidèle à l'idée reçue que les compositeurs créent leurs compositions ? La raison principale en est, dit-il, que c'est là, je cite, « l'une de nos croyances sur l'art les plus enracinées ». Elle implique l'idée que les artistes ajoutent quelque chose au monde, que l'art est une activité semblable à celle d'un dieu, « a godlike activity », où l'artiste amène à l'existence ce qui n'existait pas auparavant, tout comme un démiurge forme un monde à partir de la matière informe. Fin de citation. C'est pour cette raison, conclut-il, que les artistes méritent notre respect et notre gratitude. On voit que pour Levinson, se passer de la notion de création pour parler d'art, loin de n'être qu'une simple démarche analytique sans conséquences normatives, revient à porter un coup à la valeur que l'art représente dans notre culture. Faute de temps, je n'entre pas dans le détail de ces argumentations. Je me borne à signaler que le platonisme musical à la Keevy semble assez peu spécifique pour cerner la question de la musique, ou même celle de l'art, car on ne voit pas pourquoi cette idée d'une préexistence logique des structures sonores ne vaudrait pas pour l'ensemble des énoncés linguistiques, c'est-à-dire pour tout ce que l'être humain peut dire ou penser. En même temps, l'insistance sur l'inscription de toute proposition nouvelle dans un espace des possibles défini par des règles indépendantes du moment de production va bien dans le sens de la critique de l'artiste Demiurge, quoi qu'il en soit par ailleurs de la pertinence de la notion de type au-delà des musiques écrites. Par ailleurs, il me semble que la proposition historiciste de Levinson, qui à l'époque aura introduit une sensibilité au contexte bienvenue au sein d'un champ de l'esthétique musicale peu habitué aux sciences sociales, correspond à un état de la réflexion sur la musique qui, en 1980, n'avait pas intégré l'idée que le timbre est lui-même descriptible en termes de structure sonore. Personnellement, je crois d'ailleurs qu'une sonate hammerclavier jouée au synthétiseur n'en est pas moins elle-même qu'une interprétation sur un pianoforte ou qu'une reproduction de l'une ou l'autre de ces versions par tout moyen technique approprié. Mais je vais laisser de côté ce débat musicologique pour me tourner vers une autre discussion, celle qui en 1985 opposa les philosophes Paul Ricoeur et Cornelius Castoriadis autour du statut de la création dans l'imaginaire social. Comme le résume Johann Michel dans la présentation de leur dialogue, qui eut lieu sous forme orale dans le cadre d'une émission que Ricoeur animait alors sur France Culture, Castoriadis y défend, je cite Michel, la thèse de la création historique dans un sens purement anthropologique, si l'on entend par là la possibilité de créer des formes nouvelles, institutionnelles, artistiques, politiques, scientifiques, qui ne sont pas déjà préfigurées dans l'ordre existant. Une thèse qui, dit encore Michel, est tout simplement inacceptable pour Ricoeur, qui préfère justement parler de production plutôt que de création, non pour dire que tout est déjà préfiguré, mais pour attester que toute production humaine nouvelle ne procède pas d'une sorte d'inexistant. Fin de citation. Les deux philosophes se réfèrent à l'art pour illustrer leurs propos. Je cite Castoriadis. Un exemple, tout ce qu'il y a d'empirique, la première cellule vivante sur Terre qui représente du nouveau par rapport à l'océan primordial. Bien entendu, pas du nouveau absolu, elle est réglée, elle ne peut violer quantité de règles. De même, Wagner composant ses opéras, il ne peut violer certaines lois proprement musicales, d'autres concernant son métabolisme biologique, ses rapports à autrui, etc. Il n'empêche, c'est toujours Castoriadis qui parle, qu'il pose de nouvelles harmonies qui, avant lui, étaient absurdement dissonantes. Fin de citation. Et je cite maintenant Paul Ricoeur. Autrement dit, nos constructions visent à être des reconstructions. Il s'agit d'une tâche de restitution en quelque sorte. Je prends ce mot dans le sens utilisé en peinture lorsqu'on parle d'un rendu de paysage et le verbe rendre dans les deux sens du mot. Il faut d'un côté payer une dette, de l'autre faire œuvre de création, une création qui est en même temps l'affranchissement d'un endetté insolvable. On retrouve d'ailleurs cette lutte du créateur qui fait toujours des peintures autres quand il produit des séries, les séries de Monet, les meules ou les... Et puis Castoriadis complète les pommes de Cézanne, par exemple. J'observe que lorsque Castoriadis dit que les nouvelles harmonies de Wagner étaient avant lui absurdement dissonantes, il reconnaît qu'elles existaient déjà, mais qu'il était impossible de les reconnaître comme telles. Cela n'est pas sans rappeler l'idée que les structures musicales sont découvertes plutôt que créées, tout en introduisant la notion d'une production de sens partagée entre le compositeur et son public. Par ailleurs, dans le dernier passage cité, Ricoeur utilise bien le mot « créateur » pour parler de Monet et de Cézanne. Et pourtant, un peu plus loin, il insiste sur le fait que, je le cite, « nous sommes toujours dans du pré-institué, dans du nouvellement institué ». Et je ne vois pas où vous pouvez placer la notion de création, sinon au sens d'un événement de pensée que nous reconfigurons exactement comme nous racontons une autre histoire avec les mêmes archives. Ricoeur admet donc la notion de création seulement dans un sens qu'on peut appeler faible, équivalent à celui de reconfiguration, et en reconnaît la pertinence pour toutes sortes de productions intellectuelles, qu'elles soient artistiques ou pas. Comme on voit dans le dialogue entre Castoriadis et Ricoeur, il n'est plus question de la paire création-découverte, comme dans le débat sur l'ontologie de l'œuvre musicale, mais de la paire création-production. Cela peut paraître très différent, et pourtant elles ont un point commun dans le refus d'ancrer les significations humaines dans un geste démiurgique ou théologique. Michel fait l'hypothèse que c'est la foi chrétienne de Ricoeur qui l'induit à réserver la notion de création à Dieu, tandis que c'est la foi révolutionnaire de Castoriadis qui le pousse à voir dans l'institution humaine, au sens de l'acte instituant, le fondement de la vie sociale. On peut tenter une synthèse de ces points de vue en disant qu'il n'est de production sociale du sens qui ne soit découverte de ce que cette société recèle déjà potentiellement, mais que le saut du potentiel à l'effectif est le moment ou le lieu énigmatique d'une discontinuité qui reste pour nous autant une question qu'une valeur. Ce sont cette question et cette valeur que nous voulons tout à la fois élucider et susciter en appelant, comme le fait ce colloque, à créer ou à recréer le monde. Je voudrais tenter maintenant d'illustrer cette discussion par un exemple. Ces derniers temps, le phénomène de la nuit debout a contribué à sa manière à remettre sur la table la question de comment recréer le monde. Tandis que le sens et l'importance de ce qui se passe place de la République depuis un mois et demi est loin de faire l'unanimité, ce sont peut-être les prestations de l'orchestre debout, cet orchestre classique d'amateurs formé pour l'occasion, qui trouve l'accueil positif le plus consensuel. Il y va non seulement d'une adhésion massive sur place, lors des trois concerts organisés jusqu'à présent, mais faut-il vraiment parler de concerts ? Mais il y va aussi d'une appréciation positive de la part des médias, y compris ceux qui sont globalement hostiles à l'ensemble du mouvement de la nuit debout. Et c'est la symphonie Nouveau Monde de Dvorak qui a été choisie pour la première performance du 20 avril dernier, avec une envie apparemment irrésistible d'entendre le titre de cette œuvre comme une métaphore valant manifeste. Et donc je vous fais entendre et montrer. Merci, puisque ça sonne.
Non, vous voyez.
Ah, merci beaucoup. Mais là, on n'a plus le son.
Thank you.
Je vous laisse décider si tous les sons que l'on entend, à part les sons de l'orchestre, sont à intégrer dans la performance ou non. Ça, c'est une question dont on peut débattre. En tout cas, se vouloir ensemble un monde nouveau suppose de miser sur le potentiel créateur du déjà-là. C'est évident, puisqu'il s'agit d'une œuvre d'art composée par Dvorak en 1893, avec en vue un nouveau monde qui n'était autre que l'Amérique, où eut lieu la première performance, ce qu'on appelle en français la création. En même temps, dans notre culture, le nouveau monde est l'objet par excellence d'une grande découverte plutôt que d'une création, en l'occurrence celle de Christophe Colomb. Il va de soi que le nouveau monde de la nuit debout n'a pas grand-chose à voir avec l'Amérique ni avec les États-Unis d'aujourd'hui, mais pointe plutôt vers un autre monde qu'il s'agirait maintenant de créer ou de recréer ou de découvrir ou de redécouvrir. Admettons que pour ce qui est du rendu technique, cette performance de Dvorak peut être dite mauvaise. Elle est de fait improvisée par des musiciens qui revendiquent leur statut amateur et qui jouent cette partition difficile dans un lieu peu approprié du point de vue acoustique et même dans une position elle-même peu appropriée, à savoir debout, sauf les violoncellistes, bien entendu. Et il faut dire que l'expérience musicale n'est pas en soi complètement inédite. On peut l'associer, malgré d'importantes différences, à nombre de démarches de démocratisation de la musique classique, dont El Sistema vénézuélien est peut-être la plus célèbre. Pour ma part, elle me fait plutôt penser au Portsmouth Orchestra, ce fameux orchestre d'amateurs qui, dans les années 1970, interprétait des œuvres du répertoire classique qui étaient trop difficiles pour eux, mais dont ils proposaient des interprétations radicalement nouvelles, voire avant-gardistes, par le fait même que leurs défauts techniques les faisaient sonner aux antipodes des orchestres classiques, lesquels par la même occasion se voyaient déstabilisés dans leur statut de seuls interprètes légitimes de ce répertoire. Outre la qualité technique, on peut objecter que la bienveillance des médias à l'égard de l'orchestre debout, qui tranche avec la sévérité à l'égard de ces jeunes gens qui, comme on a pu l'entendre, n'ont rien dans la tête, s'explique par le fait qu'il n'y a là aucun enjeu politique particulier, aucun défi, par exemple, à l'ordre existant. On peut même trouver que cela réflexe légitimiste conduit à faire d'une symphonie classique mal jouée le symbole de quoi que ce soit de nouveau. Et c'est un fait, en tout cas, que la couverture médiatique de cet orchestre va de pair avec l'invisibilisation relative de pratiques musicales moins légitimes qui ont lieu sur le même site, par exemple de rap, de slam, de jungle, de reggae ou de fanfare. Une préférence pour le classique que je ne fais moi-même que recycler en vous montrant cet extrait-là plutôt que celui d'un slammer, dans le cadre de ce colloque organisé dans un lieu qui, au-delà de toutes ses ouvertures aux autres genres musicaux, reste avant tout un temple de la musique classique. En tout cas, le nouveau monde qu'on a entendu Place de la République peut être alternativement le cauchemar du mélomane ou le frisson du dadaïste, mais il est en tout cas une musique qui ne se laisse pas appréhender avec les catégories habituelles de la critique musicale, du moment qu'elle tisse dans son être même les conditions sociologiques de sa production. Et c'est là l'essentiel, car la revendication d'originalité de l'orchestre debout n'est pas dans le choix de l'œuvre, ni dans comment elle sonne, mais bien dans les modes de production de la performance. Cela concerne le rôle des chefs d'orchestre, que l'on voudrait moins vertical que d'habitude, les mécanismes de démocratie participative mis en place pour le choix du répertoire, les modes de socialisation des partitions par Internet, ou encore la réflexivité de la pratique, ou tout simplement le contexte. Je cite la page Facebook de l'Orchestre Debout. « Il se passe là, à Nuit Debout, quelque chose de spécial. En plus de l'espoir politique porté par le mouvement, nous avons assisté à des situations musicales et humaines nouvelles où il y avait moins de barrières entre l'orchestre et le public, moins de snobisme, moins de suspicion d'élitisme, moins de critique musicale, juste des concerts pour le plaisir et ça fait du bien. Au passage, on aura montré qu'on peut inventer et construire des choses par nous-mêmes. » Fin de citation. Chacune de ces phrases mériterait un commentaire, à commencer par cette revendication du plaisir pour le plaisir même, entendu comme une revendication sociale en soi. Le choix des morceaux joués par l'orchestre debout est également significatif, car à la symphonie de Dvorak s'ajouteront par la suite le Va pensiero de Verdi, l'Ode à la joie de Beethoven, le Bella Ciao et le Boléro de Ravel. Dans l'ensemble, on pourrait en parler comme une performance au sens que revêt ce mot dans les arts visuels, voire comme une pièce de théâtre instrumentale au sens de Mauricio Kagel. Qui sait ? En tout cas, la symphonie de l'orchestre debout est apparue à certains comme la métaphore d'un monde nouveau fait avec de l'ancien reconfiguré, et c'est déjà une raison de s'y intéresser. Mais je conclurai par la question de savoir si les manifestations de l'Orchestre Debout relèvent ou non d'une création. Cela ne va pas de soi, contrairement à ce qu'on peut dire du travail de Dvorak lui-même ou des musiciens qui ont joué sa symphonie pour la première fois en 1893. Et cependant, une fois accepté la pertinence du concept de création au-delà du cercle enchanté des artistes créateurs, on ne voit pas de raison de la refuser aux acteurs des mouvements sociaux, par exemple les animateurs de ce mouvement de musiciens. Cela dit, je pense qu'il est moins utile de répondre par oui ou par non à cette question que de voir qu'il est dans la nature de cet objet de nous pousser à réfléchir à la notion de création elle-même, et en particulier à sa pertinence pour décrire des modes d'action sociale qui impliquent une découverte ou une redécouverte de certaines formes d'action passées et qui en même temps se veulent novatrices ou inédites. On aura vu qu'à la fin du passage cité, je parle de la page Facebook, apparaissent les verbes « inventer » et « construire » et non pas celui de « créer ». Mais bien sûr, cela n'est pas en soi une raison d'exclure le terme de création pour décrire ce qui se passe place de la République ou ailleurs dans le monde d'aujourd'hui. Et en tout cas, c'est une décision qui ne peut être le fait d'un chercheur isolé et c'est pourquoi j'ai hâte d'entendre vos réflexions sur ce sujet. Je vous remercie.
Merci, Esteban Bourg, pour cette réflexion sur la création. On va ouvrir la discussion. Moi, en vous entendant l'un et l'autre, je pensais à un livre que j'ai lu il y a peu de temps d'un historien de la culture américain qui s'appelle Darren McMahon et qui est une histoire du génie, dont la traduction française vient de paraître chez Fayard il y a quelques mois. Et il se penche, en prenant son élan depuis l'Antiquité, il se penche surtout, puisqu'il est 18e, sur ce moment où le mot de génie change de sens et ne signifie plus ces créatures qui font le lien entre les humains et les dieux, mais véritablement ceux qui sont capables de création. Et je pense qu'on assiste là à un basculement extrêmement important dans l'histoire et dans l'histoire de l'art en particulier. Et ce que je voulais dire, c'est que Darren McMahon, au fond, met en évidence deux causes de cette transformation. L'une, qui nous semble évidente, on l'a déjà beaucoup invoqué ici, qui est celle du mouvement de sécularisation des sociétés, où il devient possible donc de parler de religion comme ça et d'utiliser le mot création autrement que dans ce contexte religieux, et que les artistes en viennent à prendre la place des dieux. Mais l'autre, qui me semble faire un écho à vos deux communications, l'autre cause qu'il pointe est assez paradoxale, c'est la montée en puissance de l'idée d'égalité dans ces sociétés, qui lui semble aussi jouer un rôle déterminant dans ce basculement. C'est-à-dire au fond que, par exemple, une république qui va choisir de mettre ses grands hommes qui sont aussi libres, aussi frères que les autres, mais un peu plus égaux, dans ce qui était autrefois une église et qui devient le temple de la République, le Panthéon. Et donc c'est ce moment où l'égalité triomphe qui, d'une certaine façon, a besoin comme contrepoint, comme exception à la règle de l'égalité, de recourir à l'invention du statut de génie, au fond, et donc de génie créateur, d'une certaine manière. Et donc ça pointe ce que vous disiez sur la nécessité de la fonction de l'imitation, si l'on veut mettre en œuvre des politiques relativement égalitaires, et ça pointe aussi la question de la démocratie culturelle dont vous parliez, Esteban.
Alors je pense qu'en effet, cette articulation entre la notion de génie et la notion d'égalité est importante pour comprendre pourquoi on la valorise tellement, cette notion de génie, malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, y compris celle de cet héritage théologique qui ne dit pas son nom. Un génie, ça peut être tout le monde potentiellement. Et l'un des ressorts fondamentaux de la démocratisation culturelle comme un programme politique, ça consiste à laisser émerger les génies là où ils sont, là où ils se trouvent, indépendamment de ce qu'ils ont hérité, de ce qu'ils ont cru comprendre comme étant leur destinée, etc. Alors jusqu'où ce programme s'est réalisé, se réalise, bien sûr, il est toujours incomplet, imparfait, et c'est toujours quelque part une gageure de compenser les inégalités de naissance par une démarche volontariste au niveau de l'éducation. Mais c'est l'une des raisons pour laquelle il ne faut pas non plus sacrifier complètement la notion de génie. Ça devenait une manière un peu emphatique. À qui pourrait-on dire génie, comme on disait.
McMahon nous dit que ça se termine avec Einstein, grosso modo.
Probablement. En tout cas, c'est pas. Maintenant, ça fait un peu rétro, quoi. Je ne sais pas qui voudrait même de cette étiquette-là. Je parle des gens que l'on reconnaît comme exceptionnels. Mais il y a quelque chose de ce qui a été l'ascension vers le statut de grand homme des créateurs plébéiens. Venu de potentiellement, en tout cas en théorie, de n'importe où, qui est une valeur à préserver, il me semble. Et c'est pour ça que je suis personnellement assez ambivalent par rapport à cette démarche qui, d'une part, me mène à faire cette critique-là de ce panthéon des artistes, à montrer tout ce qu'il y a de... Enfin, et bien sûr, c'est un phénomène qui dure depuis 40 ans, hein, cette critique-là, on l'a évoqué depuis deux jours. Et en même temps, à dire qu'est-ce qu'on perd en la sacrifiant. On perd, par exemple, cette idée que cette valeur-là a fait notre démocratie, notre République, et que, il n'y a pas à s'en détourner. Au contraire, c'est quelque chose qui reste à renforcer quelque part.
Je suis sur des lignes assez proches. J'étais sensible au fait qu'on ait tous les deux évoqué la question d'une subjectivité collective, de ce périmètre de nous, qui est le cadre dans lequel un génie, un créateur, un artiste peut s'imposer. Ce que j'essaye de mettre en avant à travers cette réflexion sur le Japon, c'est cette violence, tout d'abord, de ces confrontations entre des subjectivités collectives, entre des nous qui, chacun se revendique comme étant particulièrement spéciaux, mais se faisant en déniant la caractéristique à l'autre, bien souvent. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est fréquemment le cas. Et je crois vraiment qu'il est intéressant aujourd'hui de repenser les périmètres qui englobe ce nous. On ne pourra pas arriver à quelque chose de parfait, évidemment. On aura toujours besoin de frontières qui vont exclure. Mais je crois que cette logique de réseau, aujourd'hui, elle est nécessaire. Elle ne peut être pensée solidement que de manière dialectique avec un topos. En tout cas, il faut la penser. On ne peut pas rester dans un cadre uniquement franco-français.
Oui.
Bon, merci. Mais écoutez, je trouve que ça continue à être du meilleur niveau qui soit, tout ce colloque. J'aurais posé, dans l'ordre des deux conférenciers, une ou deux questions. La première, c'est pas une question vraiment, c'est plutôt un commentaire sur le mot « re », « recréer ». « Re », ça ne veut pas dire forcément « imiter ». Comme je suis avec deux ou trois autres à l'origine de ce colloque, je n'avais vraiment pas le sentiment qu'en ayant trouvé ce titre « Recréer le monde », le « re » pouvait renvoyer. C'était un petit choc pour moi que ça pouvait renvoyer à l'idée d'imitation. C'était plutôt l'idée qu'un monde se défait ou s'en va ou n'est plus ce que nous souhaitons qu'il soit. Nous allons en créer un autre et pas forcément être dans l'imitation. Donc voilà, c'était pas du tout polémique, mais au contraire, ça m'a ouvert une réflexion sur le sens que chacun de nous pouvons accorder à un mot ou à une expression. Mais c'est une autre remarque que je voudrais faire. On voit les premières images que vous nous faites voir, c'est Van Gogh. Et j'ai aussitôt pensé, mais c'est pas le premier à avoir imité l'autre, c'est Van Gogh. Il y a ce fameux tableau où il reprend une estampe. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir un peu autrement? Alors Van Gogh, c'est un bon exemple. Je pense que pourquoi Van Gogh, plus qu'un autre peintre, a à ce point fasciné les Japonais, mais a été lui-même fasciné, d'une certaine façon, par les estampes. Et donc, est-ce que ce thème ne nous obligerait pas à regarder davantage encore la France sous l'angle, peut-être, d'une certaine globalisation du regard... Enfin, voilà, des choses comme ça. En tout cas, je me suis dit, il aurait fallu faire cette estampe aussi. Et qu'est-ce que vous nous diriez de ce tableau de Van Gogh sur, qui reproduit cette célèbre estampe? Et puis à Esteban, c'est une question. Je ne vais pas te demander, Esteban, de faire une deuxième conférence. Mais quand même, tu nous as mis l'eau à la bouche au début en disant « Ah, j'ai assez envie de parler de la création ex nihilo ». Alors, est-ce que tu pourrais juste nous faire part de les premières idées que, par provocation, tu aurais introduites si tu nous avais parlé de la création ex nihilo ?
Je vous remercie de vos commentaires. C'est vrai que le déploiement de ces allers-retours entre Van Gogh en particulier, mais bon, de manière plus générale, les impressionnistes ou post-impressionnistes, comme on dit parfois, et le Japon est assez étonnant. Il y a plusieurs exemples qui me viennent en tête des deux côtés. J'essaierai d'être bref. Le cas de quelqu'un qui s'appelle Duret, très très frappant. C'est le premier qui a parlé des avant-gardes, théorisé les avant-gardes au milieu du 19e siècle, et il dit, pour justifier de qui va être accepté dans le salon des impressionnistes, nous ne prendrons que ceux qui font œuvre de nouveauté totale. Dès lors qu'on aura l'impression de déjà-vu, on l'éliminera. Puis plus loin dans son texte, il dit, les impressionnistes ne sont pas nés en France, c'est les Japonais qui ont créé l'impressionnisme. Donc on a un paradoxe très fort, avec d'une part les impressionnistes qui sont les parangons de la création et les impressionnistes qui, de l'autre côté, ont repris le Japon. Donc on a vraiment ce nœud qui est extrêmement net là et qui montre bien cette partition artificielle des espaces qui est nécessaire. On ne peut pas faire sans, mais il faut se poser la question et en essayant de la rendre la plus dynamique, complexe, intelligente, pensée, et en tout cas pas l'occulter. Voilà, c'est la première chose que je dis. C'est un nœud, on doit l'accepter comme nœud et ne pas le refouler. L'autre point qui est plus directement une réponse à la question, c'est clair que la France, à travers des figures comme Van Gogh, mais même si Van Gogh n'est pas français, c'est la France qui a été dans le monde le pays qu'on a reconnu comme étant le porteur de cette créativité de Van Gogh, a énormément influencé à travers le monde, et peut-être même plus la posture que l'œuvre. C'est très étonnant de voir qu'au Japon, il y a eu une admiration sans borne pour Van Gogh dans les années 10. À cette époque, on n'avait jamais vu un original de Van Gogh. Jamais. Il n'y en avait pas eu. Il n'y avait pas d'originaux qui étaient arrivés. Les seules choses qu'il y avait, c'est des cartes postales, essentiellement, la plupart en noir et blanc, qui ont généré des œuvres en quantité inouïe, parce qu'elles laissaient à la fois imaginer qu'on avait affaire à un original formidable, et en même temps, ce n'était pas l'original, donc on pouvait rêver qu'il était encore plus beau que la reproduction. Donc ce Van Gogh, cette figure du génie, du créateur, c'est vrai que ça produit des formes, ça entretient une dynamique.
J'avais envie que Michael Duquesne parle plus longtemps, non seulement parce que ce qu'il dit est très intéressant, mais parce qu'en plus ça me donnait un peu plus de temps pour réfléchir à quoi répondre à ça, parce que vraiment je n'avais pas pensé à faire le contrepoint, faire le contraire de ce que j'ai fait là, c'est-à-dire une sorte de mise en perspective critique enfin. Mais alors, je vais quand même essayer de te répondre, Michel. L'image qui me vient, et là, excusez-moi, mais je refais quelque chose. Donc, c'est en musique, comme vous savez, c'est Schoenberg qui fait un peu figure de, voilà, ce héros de la nouveauté pour l'histoire de la musique du XXe siècle, à partir d'un terme qui est devenu le terme clé de cette histoire, c'est le terme atonalisme, atonal. Là-dessus, j'aurais envie de dire que si j'avais à faire cet éloge donc, de la création ex nihilo, je dirais quand même que la création ex nihilo, c'est un concept qui n'a de sens, en tout cas dans le domaine de l'art, que dans une logique d'interaction entre un producteur-créateur et un premier public, en tout cas une sorte de scène collective de création, qui serait celle de cette interaction fatale, quelque part, entre un artiste et ce premier public. Pourquoi je dis ça? Parce que si on s'en remet à l'œuvre de Schoenberg et à ce qu'il en a dit lui-même, il y a beaucoup de raisons de penser qu'il n'y avait pas de création ex nihilo. Lui-même, il n'a fait pendant toute sa vie que d'expliquer qu'il n'avait fait que tirer les conséquences d'une situation qu'il avait héritée, que c'était lui qui avait le plus tiré les conséquences logiques de ce qu'était l'ancien système, c'est-à-dire la tonalité. Bref, que justement, la création ex nihilo était le contraire de ce qu'il avait fait. Et en plus, les musicologues qui ont développé des techniques d'analyse ont souvent eu tendance à vouloir illustrer ça en montrant ces continuités, cette téléologie dans certains cas, etc. Et en face de ça, disons, Schoenberg, très tôt, s'est retrouvé face à un ensemble de gens, son public, ses premiers critiques, certains collègues qui disaient « Ce que vous faites n'est pas de la musique, ce que vous faites est incompréhensible, ce n'est pas du tout de l'art. » Et donc, le premier message de cette dimension ex nihilo de ce qu'il avait fait est venu de cette interaction agonistique avec des gens qui, en fait, ne l'aimaient pas, le refusaient, et même lui refusaient le droit de citer parmi les compositeurs. Et là, c'est une intuition qu'Adorno a développée. Alors, on peut pas être convaincu jusqu'au bout, mais il a dit les rejets, les réactions négatives sont souvent des meilleurs tests de la nouveauté de quelque chose que les admirateurs qui vont dire, voyez, c'est l'héritier de Wagner, même si on tarde à s'en rendre compte. Et c'est de ce clash, de ce moment d'incompréhension qui est produit collectivement, que l'on a des phénomènes qui méritent, je pense, de s'approcher au plus près de cette idée-là, quoi, dans le domaine de l'art. Alors après, ex nihilo, non, mais... enfin. Le projet, il est là. Il est là dans cette production d'un saut d'intelligibilité qui est compensé plus tard.
Oui, je faisais signe pour le micro.
Merci, si tu m'y autorises, Sylvain. Juste un mot de plus. Esteban, Adorno, pourquoi est-ce qu'il n'applique pas à lui-même ce raisonnement qu'il tient pour Schoenberg dès qu'il est question du jazz? Puisqu'il détestait le jazz. Il trouvait que c'était une musique tripale et voilà.
Peut-être qu'il avait raison sur le jazz, hein, après. Enfin, moi j'aime bien la critique du jazz par Adorno. C'est pas très populaire, mais je pense qu'il y a dans sa critique, justement, dans la négativité de ce qu'il dit sur le jazz, il y a des intuitions formidables sur pourquoi le jazz est le jazz et pourquoi il a été aussi important dans la culture du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a le signe de l'évaluation de cette critique qui est son expérience, son vécu, le jazz qu'il écoutait d'ailleurs, qui n'est pas le jazz qu'on aime nous le plus volontiers. Il a eu le temps quand même d'aller jusqu'à John Coltrane s'il s'était intéressé à ça. N'empêche que quand on parle de la critique du jazz par Adorno, c'est du jazz des années 20 tel qu'il l'écoutait en Europe qu'il est question, et qui à certains égards n'est pas si éloigné d'une certaine radiographie qu'il fait de comment les processus musicaux se déroulent, si on laisse de côté le signe qu'il y met. Donc bref, j'ai pas non plus à faire la défense ou l'apologie d'Adorno. Je dis simplement, Adorno a inventé beaucoup des raisons, de bonnes raisons que nous avons de le critiquer quand il se risque sur ce terrain, les industries culturelles, que d'ailleurs nous pensons forcément à partir de son travail. Je donne toujours une référence qui est un article qu'il a écrit en 1929 sur trois tubes. À l'époque, on disait en Allemagne Schläger, donc des chansons à la mode. La critique qu'il fait, la critique sociologique et musicale qu'il fait de ces morceaux pour dire que c'est très mauvais, que ça va pas du tout, est l'ancêtre de tout ce que les cultural studies ont développé depuis 40 ans pour reprendre ces mêmes objets avec en plus le même réflexe de critique qui était le sien. Donc voilà. Enfin, on pourrait continuer sur Adorno, mais je ne sais pas si ça donne un élément déjà.
Il y a peut-être une autre question, je voulais juste une petite remarque. Il me vient à l'esprit une autre lecture récente en vous entendant sur la question de la création ex nihilo et de l'invention. Jean-Pierre Bertrand, qui est professeur de littérature à Liège, vient de publier dans la collection de Gérard Genette un livre sur l'invention littéraire dans lequel il montre de façon assez spectaculaire que toutes les inventions formelles entre la deuxième, enfin, dans la deuxième moitié du 19e siècle, tout début du 20e siècle, en littérature, le vers libre, le poème en prose, la voix intérieure, etc., sont toujours le fait de gens qu'on a la plupart du temps oubliés ou qui jouent des rôles secondaires dans l'histoire de la littérature aujourd'hui, et jamais le fait de génies créateurs. C'est-à-dire que Baudelaire ou Joyce ne sont pas les inventeurs des formes dont ils se sont saisis très rapidement, qu'ils n'ont pas d'aucune manière été les premiers à mettre en œuvre. Et je trouve cette réflexion assez intéressante parce qu'elle permet de dissocier l'invention de peut-être la création de ce point de vue-là. Il nous reste peut-être 2-3 minutes ou s'il reste des questions. Sinon. Oui, 2, c'est ça. Bon, mais on peut aussi s'arrêter là. Merci à vous deux. Merci à vous.